Bien, merci. Il me revient de faire une petite, enfin une, un retour sur la journée. J'espère effectivement que le moment n'est pas en décalage avec la concentration, puisqu'on travaille depuis ce matin. Une expression qui revient souvent, c'est celle du décrochage. Et je suis un peu d'ailleurs surpris parce que, moyennement surpris, parce qu'évidemment, on voit très bien que la problématique décrochage concerne différents lycées professionnels, mais on aurait du mal à imaginer quelqu'un parler de décrochage, par exemple, s'agissant des étudiants de la faculté de médecine, qui sont très nombreux à échouer au concours, mais dont, a priori, la plupart du temps, on ne parle pas en termes de décrochage, comme si c'était une réalité tout à fait autre que le lycée professionnel. Alors, pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que les lycées professionnels, ça n'est pas que le décrochage, hein, c'est aussi la réussite. Et en même temps, on peut parfaitement essayer de comprendre la question de la réussite à partir de la question de décrochage. Alors, par exemple, j'ai entendu, et vous avez entendu depuis tout à l'heure, puis cette journée, que paradoxalement, le décrochage, dont il faut définir un peu le contenu, peut aussi produire des mobilisations collectives, peut avoir aussi des effets pédagogiques positifs, c'est-à-dire comment un problème scolaire, apparemment scolaire, peut aussi produire des dynamiques en matière de professionnalité enseignante, en matière aussi de mobilisation des équipes, en matière aussi de partenariat avec le monde extérieur. Et on voit très vite que cette problématique-là apparaît comme un analyseur, je dirais, du dysfonctionnement de l'institution scolaire, mais pas seulement, puisque l'institution scolaire est un peu à l'image de, on va dire de façon plus générale, de l'évolution institutionnelle et économique un peu d'aujourd'hui. Alors, j'ai relevé, je ne vais pas être très exhaustif, mais je vais essayer de pointer un certain nombre d'éléments qui, à mon avis, permettent de baliser un peu cette question-là, c'est-à-dire la question de la professionnalité enseignante à partir de la thématique du décrochage, la thématique aussi de la démobilisation, remobilisation des élèves. La première chose qui m'est apparue importante, c'est un peu la question des déterminants, hein, déterminants de la réussite en lycée professionnel. Et le premier point qui apparaît, c'est la question de l'orientation. Alors j'ai relevé cette question de l'orientation, problématique de l'orientation. Est-ce que le fait de choisir ou de ne pas choisir le lycée professionnel explique la mobilisation ou démobilisation scolaire? Et à ce propos, je ferai une parenthèse, puisque tout à l'heure, quand il y a eu un débat sur les chiffres, ce qui a un peu surpris à mon avis, c'est que on a des représentations sur certaines formations sont moins demandées. Donc quand elles sont moins demandées, forcément, c'est là où on devrait avoir le plus d'élèves qui déclarent ne pas avoir choisi et peut-être avoir plus d'enseignants qui disent finalement c'est là où on a le plus de décrochage. Et j'ai aussi réagi tout à l'heure, j'ai réagi en voyant les chiffres en me disant, est-ce que par exemple l'hôtellerie, qui est une filière très demandée, est-ce qu'elle connaît un décrochage plus important qu'une autre spécialité? Alors on avait vu, il y avait structure métallique par exemple, ou menuiserie, hein, qui apparaissait plutôt positif, puisque là, il y avait moins de décrochage, apparemment. Et donc, ce qui est intéressant, à mon avis, à travers ces chiffres, je crois, c'est aussi les représentations que l'institution et ses acteurs, finalement, avancent pour expliquer la démobilisation scolaire. Par exemple, il est souvent très, on va dire mécaniquement, on a toujours tendance à dire, finalement, si les élèves ne viennent pas au lycée professionnel ou s'ils se démobilisent, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas choisi l'orientation. Et du coup, c'est pas seulement le fait que les élèves eux-mêmes ne sont pas mobilisés sur des contenus qui font pas sens, c'est aussi comment les adultes, entre guillemets, les institutionnels, les acteurs, se représentent un peu cette question. Alors, autour de cette question de l'orientation, j'ai relevé, finalement, il y a deux façons de répondre, hein, d'institutions. C'est une action en amont et une action en aval. Hein. C'est-à-dire, une action en amont, c'est la question de la prévention. Et on est un peu dans cette, je dois dire que, alors je me positionne en tant que sociologue, que souvent quand on commence à trop parler d'un problème, c'est-à-dire quand toutes les institutions scolaires diligentent plusieurs recherches, plusieurs indicateurs sur le décrochage, on se pose la question pourquoi, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on parle du décrochage alors qu'auparavant on n'en parlait pas autant que ça. Et donc une hypothèse par rapport à cette premier axe sur la prévention, c'est que On peut faire l'hypothèse que cette problématique de décrochage interpelle les missions de l'école, c'est évident, puisque ça a été dit tout à l'heure, on n'atteint pas les objectifs de qualification de 100% d'une classe d'âge au niveau 5, mais qu'elle aussi vient remplacer ou en tout cas cacher peut-être d'autres réalités. Par exemple, que derrière le décrochage, il y a différents types d'expériences que nous ne savons pas, puisqu'on parle du décrochage de façon très générale. Or, le décrochage, ça peut recouvrir différentes réalités. Ça recouvre aussi le fait que cette notion fait parfois un peu écran sur une réalité institutionnelle, réalité d'établissement scolaire, et peut-être qu'elle remplace la notion d'échec scolaire. Hein, cette idée de décrochage qui devient une notion un peu fourre-tout, et donc c'est peut-être aussi la difficulté. Alors, anticiper, prévenir, c'est le premier axe que j'ai repéré. Alors, par exemple, à travers les témoignages d'établissements, où on met en place des périodes d'observation, où on met en place aussi de la médiation, du tutorat, on voit bien aussi, d'ailleurs, comment un problème qu'on identifie comme tel débouche aussi sur l'invention, sur l'invocation des techniques. Par exemple, j'entendais sur l'entretien d'explicitation, c'est intéressant de voir comment cette thématique-là, qui vient du monde de la formation d'adultes ou d'autres domaines, entre à l'école. C'est ce qui explique aussi comment un problème de ce type engendre aussi de l'innovation. Et puis, deuxième axe, c'est cette l'action en aval. C'est-à-dire, sitôt que les élèves sont au lycée professionnel, quand ils y sont, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est aussi la production d'indicateurs. C'est-à-dire, on va essayer de produire des indicateurs sur est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de comparer, d'observer, qu'il y a peut-être des moments où le décrochage prend forme, que deviennent les élèves après, que deviennent les décrocheurs. Donc là, on n'est plus dans l'anticipation, on est plutôt dans l'action après. Hein. Et d'ailleurs, ça recouvre aussi des positionnements institutionnels différents. C'est-à-dire que il y a une sorte de division de travail. Au lycée professionnel, l'éducation nationale revient justement cette question de l'anticipation. À la région, plutôt, qu'est-ce qu'on fait après? Hein, donc le décrochage peut apparaître comme un objet d'intérêt de différents acteurs, mais en même temps, on n'agit pas au même moment, on n'agit pas au même instant, et sans doute qu'on n'a pas non plus la même représentation de ce que c'est que le décrochage selon les institutions auxquelles on appartient. Autre élément aussi, donc ça c'est sur l'orientation, deuxième grande idée qui m'apparaît importante, c'est l'idée selon laquelle le fait que les lycées professionnels constituent un univers très complexe. Alors c'est un univers complexe parce qu'il y a une diversité d'établissements scolaires, ça a été d'ailleurs dit, on l'a vu à l'après-midi, il y a une diversité aussi des élèves, hein, et d'ailleurs de ce point de vue ça conforte des choses que nous avons déjà vues, que d'autres chercheurs ont déjà vues il y a longtemps, quand par exemple Baudelot et Stablé disent dans leur livre « Niveau monte », ce qui rapproche les élèves de lycées professionnels est moins important que ce qui les différencie. Donc c'était une manière de dire, attention, quand on parle des élèves lycées professionnels, c'est pas un public homogène, c'est différentes expériences, et peut-être aussi, il faut y apporter différentes réponses, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que je fais l'hypothèse aussi que nous assistons à une psychologisation des difficultés scolaires, ce qui peut effectivement susciter un certain nombre de débats et un certain nombre d'interrogations. Diversité donc des élèves, diversité des établissements, diversité des acteurs qui s'emparent de cette question, avec aussi la question de qu'est-ce que cette question du décrochage engendre comme type d'interrogation sur le partenariat entre les acteurs. Sur tout à l'heure, ça a été dit par exemple quand dans l'exposé éducateur ou enseignant, jusqu'à quel point cette frontière est valable, qu'est-ce qui permet aussi de dire que lorsqu'on intervient à deux ou à trois, je suis éducateur, je suis enseignant, est-ce qu'on ne travaille pas sur les mêmes choses? Donc il y a aussi cette interférence des compétences qui est aussi un élément sans doute aussi structurant, ou en tout cas un élément assez fort dans certaines des interventions. Et là aussi, pour ce deuxième grand axe, le lycée professionnel comme univers complexe, c'est aussi le lieu où il y a une prise de conscience de différentes problématiques professionnelles, je dirais. Hein. C'est-à-dire que il y a des problématiques en termes d'enseignement, en termes d'évaluation, en termes de réussite. Qu'appelle-t-on réussite en lycée professionnel? La réussite, est-ce que c'est le diplôme? Est-ce que c'est le savoir professionnel? Est-ce que c'est l'insertion professionnelle? Donc on voit très vite qu'il y a différents niveaux aussi de raisonnement qui implique, qui témoigne ou en tout cas qui conforte cette idée de complexité. Troisième grande idée que j'ai relevée, alors bien sûr je suis sélectif et je dirais, il y a sans doute des choses sur lesquelles que je ne détaille pas, mais il y a effectivement plusieurs jours de formation, c'est, je vais la formuler en termes de questionnement, il me semble qu'on parlait beaucoup des élèves, et je la formulerai comme ça, les élèves, les difficultés des élèves deviennent aussi des difficultés qui interpellent le travail des enseignants. Et donc ces difficultés qui interpellent le travail des enseignants interpellent aussi le travail des équipes éducatives. Et donc il m'a paru au terme de cette journée que ces difficultés interrogent sur comment les acteurs de l'institution scolaire traduisent les difficultés des élèves en difficultés professionnelles. Le passage de l'un à l'autre n'est pas évident. On peut parfaitement d'ailleurs ne pas réaliser ou se rendre compte de toutes les difficultés des élèves. Et donc, c'est cette prise de conscience des difficultés qui peut être traduite comme étant une difficulté professionnelle. Mais difficulté professionnelle, j'entends bien, c'est-à-dire quelque chose qui doit être considéré par l'institution, par l'établissement scolaire, comme quelque chose qui relève de la professionnalité enseignante et non pas des compétences de chacun. Hein. C'est-à-dire que on est dans cette limite du passage entre les difficultés des élèves, comment elles sont interprétées, comment elles sont aussi retraduites comme des difficultés ou des interrogations professionnelles. Toujours dans cette troisième observation, c'est-à-dire l'entrée par élève, on peut se poser la question suivante, en quoi l'injonction du ministère de l'Éducation nationale et d'autres institutions, à savoir lutter contre le décrochage, rejoint ou non les préoccupations des équipes éducatives. Alors, en quoi est-ce que ces injonctions, il faut lutter contre le décrochage, sont appropriées par les équipes, par les enseignants? Et de ce point de vue, je vois qu'il y a un vrai problème et qui, évidemment, on aura l'occasion dans les jours à venir, ou encore, je pense, les autres intervenants y feront référence, c'est que dès lors que nous n'avons pas défini ce que c'est que le décrochage, on peut parfaitement ne pas s'entendre sur les conséquences de la lutte contre le décrochage. Je veux dire par là que l'institution scolaire se préoccupe du décrochage, surtout à partir de la fin des années 90. Que la définition du décrochage par l'institution scolaire, par l'éducation nationale, n'est pas forcément la même que celle des enseignants ou même celle des élèves, si on part effectivement de leur expérience. Un élève qui n'est pas présent en classe, un élève qui est absent de lycée professionnel, c'est à peu près la définition qu'on a saisie depuis tout à l'heure, hein, depuis la journée. Or, on peut avoir aussi des élèves qui sont décrocheurs tout en étant présents en lycée professionnel. Et donc, toute la difficulté, c'est de savoir comment les injonctions de l'institution peuvent aussi être retravaillées, réappropriées par les acteurs de terrain, redéfinies, quitte d'ailleurs à en donner une définition qui n'est pas la même que celle de l'institution, parce qu'on voit bien que ça ne répond pas aux mêmes enjeux. Hein. Je veux dire, ça a été dit, par exemple, dans la conférence ce matin, enfin l'intervention sur les indicateurs. La préoccupation de l'institution scolaire, c'est que des élèves qui n'obtiennent pas un diplôme sont potentiellement des élèves qui risquent d'avoir des difficultés d'insertion professionnelle. On a des statistiques qui le montrent, c'est évident. Mais c'est aussi, on n'atteint pas les objectifs de l'institution, hein, la qualification de 100% du classe d'âge, et également des risques sociaux. Or, est-ce que l'élève qui est en présent en classe, qui est présent physiquement, mais qui est décrocheur, entre guillemets, d'un point de vue cognitif, est-ce que ça n'est pas aussi une forme de difficulté qui mérite aussi un travail différent? Puisque là, on n'est plus dans aller savoir ce que sont devenus les élèves, ce sont des élèves qui sont là, et comment l'institution peut les percevoir, comment est-ce qu'elle peut avoir des indicateurs sur, justement, l'anticipation, et je reviendrai un peu sur le premier point de tout à l'heure, c'est-à-dire l'action plus en amont. Alors, de ce point de vue, on peut dire, et c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce point, il me semble qu'il y a un impensé sur la notion de décrochage, parce que ça recouvre différentes expériences, parce que ça pose aussi la question de savoir si on s'est accroché à un moment donné et qu'on a décroché, quels sont les moments qui impliquent la mobilisation, et du coup, un élément fondamental, c'est le fait qu'on ne peut pas aborder le décrochage sans interroger le rapport aux apprentissages. Et cette dimension-là, elle apparaît aussi dans les différentes interventions. Par exemple, quand ça a été dit tout à l'heure sur comment on va travailler sur le sens des études, hein, notamment dans un atelier, comment on va essayer aussi de valoriser, quand on dit valoriser l'élève, c'est aussi valoriser à travers la réussite, à travers les apprentissages. Comment on va faire le lien, quand on a l'intervention de cet après-midi, entre le stage et les savoirs et la formation, quand on revient à l'école. Alors on peut imaginer, au terme de ces différentes interventions, que finalement, le lycée professionnel apparaît comme une réalité qu'on peut appréhender de deux manières. Soit on considère que le lycée professionnel, il a une autonomie, au moins relative, et c'est vrai que de ce point de vue, quand je disais tout à l'heure qu'il existe différents types d'établissements, j'aurai l'occasion de revenir un peu sur une enquête qu'on avait menée sur les décrochages, ce qu'on avait appelé l'abandon scolaire en BEP à l'époque, et on avait remarqué qu'il y avait effectivement des ruptures scolaires qui étaient plus importantes et variables d'un établissement à l'autre dans les mêmes spécialités. Donc ça nous amenait à nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des effets spécifiquement pédagogiques, spécifiquement organisationnels sur la mobilisation des élèves? Donc on peut envisager ici qu'il y a une autonomie toute relative. On ne va pas demander aux lycées professionnels et aux enseignants comme aux équipes éducatives de tout faire. Mais cela dit, ça interroge, si vous voulez, hein, sur cette question de comment le lycée professionnel peut mettre une autonomie toute relative. Mais il y a la deuxième angle, c'est de considérer le lycée professionnel comme quelque chose qui est ouvert sur l'environnement. Et de ce point de vue, apparaissent dans les différentes interventions une référence récurrente au milieu professionnel, donc ça a été dit tout à l'heure, comment les entreprises peuvent-elles apparaître comme un partenaire, quelque chose qui permet de remobiliser des élèves. Donc ça interroge sur l'alternance, comment on gère l'alternance quand les élèves sont au lycée professionnel, quand ils sont en entreprise. Vous savez aussi que l'alternance, elle se joue aussi au sein du lycée professionnel. Donc ça, c'est une première dimension. Puis le deuxième acteur qui apparaissait, c'est le rôle des parents, des familles. Et là aussi, des difficultés, c'est-à-dire comment le lycée professionnel peut nouer un contact avec les familles, quand on sait aussi, et c'est là l'intérêt aussi, nous écouterons demain l'intervention de mon ami et collègue Vincent Troget, qui parlera finalement sur l'histoire, c'est-à-dire que le lycée professionnel, il a été historiquement d'abord celui de lieu de la formation des futurs ouvriers. Donc dès lors que le lycée forme surtout au tertiaire aujourd'hui, se pose la question du lien, du sens de la formation quand les appuis symboliques qui ont été constitués par la classe ouvrière ne sont plus les mêmes. Donc cette relation à la famille se joue aussi déjà historiquement. Et donc c'est comment comment la mobilisation des élèves implique aussi ce partenariat avec les parents. Alors, sitôt qu'on a fait le constat, je trouve que par rapport aux différentes interventions, il y a eu une richesse d'expérience. Et cette richesse d'expérience extrêmement variée a soulevé effectivement un certain nombre d'interrogations qui tiennent grosso modo à l'idée suivante, c'est que les enseignants et les équipes éducatives dans les lycées professionnels ne travaillent pas de la même manière que dans les autres ordres d'enseignement. Alors, ils ne travaillent pas de la même manière, ça veut dire que ça pose la question de l'implication, hein, on pourra dire de la mobilisation des équipes. Et une des observations qui a été dite tout à l'heure, c'est la stabilité des équipes, qui apparaissait comme un élément pas totalement déterminant, mais un élément important, hein, pour l'observation, la mise en place de projets sur le long terme. Et ceci pour répondre à la question suivante, comment accrocher les élèves, hein, c'est un peu pour dire les choses assez rapidement. Alors, de ce point de vue, une des idées qui a été avancée aujourd'hui, qui revient encore, cette question de l'orientation, comment faire, c'est d'abord d'informer les élèves, cette question de l'information. Et je dois dire que cette question de l'information, elle est très récurrente, elle tombe souvent, mais finalement les élèves ne sont pas suffisamment informés. Mais ça pose la question suivante, information sur quoi? Et donc, est-ce que c'est une information sur les métiers? Est-ce que c'est une information sur les contenus? À titre d'exemple, je n'y réponds pas, mais à titre d'observation ou d'exemple que je peux vous livrer, quand on fait une journée porte ouverte dans des établissements scolaires, quels qu'ils soient, lycée professionnel, université ou autre, eh bien, on montre des réalisations. On montre un peu ce que l'on fait de façon à valoriser la formation. Or, montrer des réalisations, ça n'est pas tout montrer. Et donc, on peut parfaitement faire de l'information qui va être une information sélective pour attirer à avoir quelque chose d'attractif, est-ce qu'on montre qu'il va y avoir du français, de l'histoire, des mathématiques, etc. C'est aussi comme quel type d'information on vise quand on informe les élèves, quand on informe les parents. Beaucoup d'élèves vous disent « je ne pensais pas que ça allait être encore l'école ». Donc c'est aussi ces représentations, comment fonctionne effectivement l'information. Et donc ça a été dit, je n'y reviendrai pas là-dessus, notamment sur la transition entre collège et lycée professionnel. Autre élément aussi, sur, parmi les réponses, c'est cette question de, des réalisations qui donnent sens au savoir. Là encore, les collègues disaient tout à l'heure, on met en place des activités, on essaie aussi d'être dans le productif, notamment dans un établissement qui travaille directement avec notamment des clients ou des entreprises. Et là, ça montre d'une certaine manière, mine de rien, c'est déjà un travail qui permet de donner du sens à la formation. C'est-à-dire, on n'est pas dans le savoir-faire, le savoir seulement comment faire, on est dans le savoir productif, c'est-à-dire qui est aussi une continuité. Et ça, c'est une problématique, une difficulté rencontrée par une partie des élèves qui disent finalement, on est à l'école, mais on ne sait pas toujours finalement quel est le sens de ce que l'on apprend. Là, ça donne un sens plutôt continu. Et donc, c'est un exemple de réalisation qui apparaît comme une réponse effectivement à ces questions. Les autres éléments aussi, quatrième dimension que j'ai relevée, c'est la question de la relation entre éduquer et instruire. Et là aussi, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, si on pose la question du décrochage, seulement en termes de le décrochage, c'est quand les élèves ne viennent plus à l'école ou quand ils ne viennent plus au lycée professionnel, ça explique une des interrogations formulées. Moi, enseignant, est-ce que je dois aussi m'occuper des décrochages, puisque dans mon esprit, le décrochage, c'est quand l'élève ne vient plus. Or, si je pose la question, le décrochage cognitif, c'est-à-dire quand je suis en classe, on voit bien que la question interpelle l'enseignant. Mais en même temps, elle n'interpelle pas seulement l'enseignant, elle interpelle aussi le mode de fonctionnement de l'institution scolaire, c'est-à-dire quel collectif de travail imaginer. Et je pense que ça a été dit tout à l'heure, est-ce que l'enseignant est seul? C'est un peu le modèle libéral traditionnellement qui a prévalu dans l'institution scolaire. Est-ce que l'enseignant est seul ou est-ce que c'est des collectifs de travail? Là, on voit très vite, à travers les différentes interventions, que les problèmes rencontrés par les uns sont aussi les mêmes. En tout cas, ils ressemblent fortement à ceux qui sont rencontrés aussi par les collègues. Et donc la professionnalité enseignante, entre cette tension éduquer et instruire, je vous en parlerai à l'occasion, ça n'est pas une opposition totalement pertinente dans ce qu'on a pu voir, par exemple, dans les établissements scolaires, où les professeurs de lycée professionnels ne distinguent pas vraiment cette dimension éducative de la dimension de transmission des savoirs. Hein. Ils imaginent finalement ces deux dimensions qui sont extrêmement reliées. Alors, une autre question aussi, c'est la question du transfert de l'appropriation des expériences réussies. On voyait bien, par exemple, que dans les différentes interventions, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent plus ou moins, des choses qu'on voudrait voir mieux marcher. Donc ça pose aussi la question du transfert. Et là, il faut poser la question autrement. Comment est-ce que les lycées professionnels peuvent s'approprier des expériences réussies dans d'autres établissements? Il ne suffit pas simplement de dire que des expériences réussissent dans un établissement pour dire, tout simplement, il suffit de les appliquer. On sait qu'il y a tout un processus complexe d'appropriation, d'adhésion aussi, parce que si on n'adhère pas à quelque chose, ça a peu de chances effectivement de réussir. Et donc, c'est aussi comment les établissements, comment les équipes éducatives peuvent s'approprier des activités ou des actions qui marchent. Et donc, c'est une problématique aussi à part entière. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un peu ce que je retiendrai par rapport à la journée, des idées fortes, c'est comment la thématique du décrochage produit effectivement de l'innovation. Comment elle produit de l'invention. Et cette question, elle engendre, par exemple, une dynamique collective qui amène aussi à la construction de nouvelles professionnalités enseignantes. Je dois dire, de ce point de vue, qu'il y a une sorte, si vous voulez, d'effet de miroir entre, d'un côté, une valorisation peut-être excessive par l'institution de l'engagement de chacun, parce qu'il y a effectivement cette idée que les enseignants donnent de leur temps, sont impliqués, les personnels d'éducation, etc. Et l'effet de miroir, il rejoint un peu cette idée d'individualisation des parcours des élèves. Hein. C'est-à-dire comme si les enseignants sont des individus qui n'ont affaire qu'à des individualités en classe. Et donc, de ce point de vue, il y a un risque que je expose ainsi, c'est que les difficultés professionnelles des enseignants soient vécues sur le mode de difficultés personnelles. Donc, ça pose la question de est-ce que l'institution est capable de réaliser qu'il y a effectivement des difficultés spécifiquement professionnelles qui doivent engager des collectifs professionnels, d'où des questions qui ont été posées tout à l'heure sur est-ce que on dispose de temps pour pouvoir échanger sur des questions professionnelles, est-ce qu'on dispose de temps pour échanger entre des équipes éducatives. Et donc, ça c'est le danger, je dirais, du point de vue de la professionnalité enseignante, auquel correspond l'autre élément dont je voudrais dire un mot, ce qui est celui de la psychologisation de l'intervention auprès des élèves. C'est-à-dire, effectivement, mais ce n'est pas nouveau, on entend depuis quelques temps, quelques années, que les difficultés des élèves sont des difficultés d'ordre psychologique, d'ordre affectif, d'ordre familial. Bien sûr, il y a des difficultés familiales, des difficultés aussi psychologiques. Est-ce que ce sont les seules difficultés ? Une question a été posée ce matin, et je crois que quelqu'un l'a reposée aussi cet après-midi. Vous disiez finalement, est-ce que le décrochage, c'est seulement la responsabilité des élèves ? Est-ce que le dysfonctionnement, c'est le dysfonctionnement des élèves ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une production du dysfonctionnement par l'institution scolaire ? Je pense, là je peux le dire effectivement par rapport à un certain nombre d'observations, c'est que si on se centre sur la psychologie des élèves, si on fait finalement une sorte d'explication strictement ou seulement psychologique, on oublie aussi que l'école est un système qui se contredit, qu'il y a aussi des contradictions. L'exemple le plus banal que je peux vous dire et que vous connaissez, c'est que on valorise la voie professionnelle. Il y a le discours, il faut valoriser la voie professionnelle. Il y a effectivement un effet, on en parlera les séances à venir, de la bac professionnelle à 3 ans, la valorisation de la voie professionnelle, voilà, le lycée des métiers. Mais d'un autre côté, on évalue aussi, il y a d'autres injonctions qui conduisent à dire il faut valoriser aussi, surtout l'orientation vers la filière générale. Et donc, ce discours qui, d'un côté, veut valoriser tout en disqualifiant, il n'est pas indépendant aussi du rapport que les individus peuvent avoir avec la formation, et en même temps, sans tomber dans le piège d'une explication déterministe, je ne conçois pas que la réussite des élèves au lycée professionnel, et ils sont majoritaires à y réussir, soit dépendant de l'orientation, parce que si c'était dépendant de l'orientation, cela fait longtemps qu'on aurait eu de grandes difficultés. Donc en fait, la question, c'est l'explication en termes seulement psychologiques permet aussi de faire l'économie d'une explication un peu plus, je dirais, institutionnelle, qui fait aussi que des individus ou des élèves peuvent être en difficulté. Et les enseignants aussi, puisque on parlait ce matin, je vois que quelqu'un a posé la question, qui était de dire, oui, effectivement, quand vous travaillez avec les élèves sur leur projet et qu'au final, ils ne vont pas là où ils ont souhaité, peut-être, effectivement, ça peut fonctionner comme à l'heure. Hein, donc, il y a des effets. Mais en même temps, c'est pas la seule issue possible. Enfin, je terminerai par, j'essaie d'un petit peu de reprendre un peu les différentes idées, hein, en disant que, là, encore une fois, que je suis sans doute très sélectif. C'est que la question de une autre question qui apparaît en filigrane, je dirais ça, là encore, ça fait écho à ce que l'on peut voir chez les élèves, c'est la question de la reconnaissance du travail enseignant et du travail des équipes éducatives. Alors cette question de la reconnaissance, je pense qu'elle n'est pas indépendante de la question de la reconnaissance de la filière professionnelle de l'institution scolaire. C'est-à-dire en quoi l'innovation, en quoi l'engagement des enseignants peut-il être reconnu ? Quelles sont les modalités de reconnaissance ? Une des réponses qui a été avancée, c'est que on se sent reconnu quand on voit que nos élèves ont réussi, mais ça n'est pas suffisant, puisqu'on sait aussi par ailleurs qu'il faut soutenir les collectifs professionnels et que cette question de la reconnaissance, c'est aussi la capacité, par exemple, d'innover, la capacité aussi de déroger aux contraintes institutionnelles. On le voit à l'échelle de la responsabilité dans un établissement. On le voit aussi à travers justement ce que j'appellerais entre guillemets un bricolage positif, hein, c'est au sens positif du terme, c'est-à-dire l'invention de situations inédites pour mobiliser des élèves. Alors ça a été dit tout à l'heure pour le regroupement notamment des heures sur les heures d'enseignement, hein, l'annualisation, et ça fait écho un peu à ce que j'avais déjà observé dans un lycée professionnel où il y avait peu d'abandon de scolarité parce qu'on avait imaginé que les élèves allaient faire un stage pendant toute l'année et c'était à raison de 2 jours, 1 journée et demie par semaine. Donc ce qui permettait aussi de donner à l'alternance un sens beaucoup plus précis, beaucoup plus effectif. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que j'ai tenu en temps et puis surtout que j'ai pas trahi un peu ce qui a été dit depuis ce matin.